Docteur Jones, je doute que vous ayez quoi que ce soit susceptible de me convenir.
Oh, quel joli caillou!
Les pierres qui roulent.
Les pierres qui roulent.
Et comment on peut stationner pour des morceaux de cailloux?
On est où là?
On est en troisième.
Troisième de
l'Est Gustave Flaubert.
Mais ce ne sont pas de simples cailloux.
Quel genre de chantier sommes-nous?
Histoire bizarre.
Brevet des collèges.
Je suis sûr qu'il peut nous apprendre beaucoup de choses sur l'histoire de l'humanité.
Alexandra, Marion, Angèle,
Michel,
Emma,
Inès,
Yacine,
Fiona,
Noah, Quentin,
Adam,
Léa,
Léna,
Lou.
Test 1, 2, 1, 2.
C'est l'heure des pierres qui roulent sur Radio Campus Paris.
93.9.
Hier, aujourd'hui et demain, les 17, 18 et 19 juin, ce sont les Journées nationales de l'archéologie. Des conférences, des excursions sont organisées, des chantiers de fouilles ouvrent leurs portes et des médiations en tout genre s'offrent aux grands comme aux petits dans toute la France et sur des périodes allant de la préhistoire jusqu'à nos jours.
Et pour fêter ça avec vous, nous avons choisi à nouveau cette année d'enregistrer une émission toute spéciale au musée de Cluny, où nous sommes aujourd'hui, au plus près de vous, cher public amateur d'archéologie, parce que vous le valez bien.
Et pour que cette émission soit encore plus spéciale, on a décidé de tout chambouler. Ce n'est pas nous qui allons animer l'émission, hein Léa? C'est ni même la gérer d'ailleurs.
Non, on va rien faire du tout, en tout cas si peu. Cette année, ce sont les élèves de 3e, qui prennent les commandes de l'émission pour les Journées nationales de l'archéologie 2016. Je veux parler bien sûr de la classe de 3e 2 du collège Gustave Flaubert dans le 13e arrondissement de Paris, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors pourquoi ici? Pourquoi aujourd'hui? Eh bien parce qu'ils ont un pari fou. Leur professeur principal leur a proposé de faire un film documentaire sur le quartier latin. Et ils ont dit oui. Et nous, on s'est dit qu'on aimerait bien qu'ils viennent vous en parler en plein cœur du quartier latin et à leur manière. Pour jouer le rôle du maître de cérémonie aujourd'hui et qui va avoir la lourde tâche donc de commencer à parler, c'est Alexandra. Bonjour Alexandra.
Bonjour. Comme dit Enora et Léa, on est des élèves de 3e qui préparent un projet de documentaire sur le quartier latin avec notre prof de latin, mais aussi de français et de grec pour certains, Monsieur Lafont. Et on va vous parler de ce projet pendant cette émission. Je fais partie du groupe qui travaille sur l'intro du documentaire et sur le Cardo de Paris. On est trois. Il y a Alexandra, c'est moi, qui participe à l'émission radio, Marion, qui va passer à la caméra et qui est connue pour son fort caractère, à l'opposé de Kenza, qui est un vrai fantôme, on ne la voit pas beaucoup parler pendant le film. On bosse sur la présentation du documentaire. On présente les différents monuments et on parle du Cardo. À l'époque, tous les monuments dont nos camarades vont vous parler avaient une utilité bien définie et des fonctions diverses. Les thermes, les arènes, le forum, les aqueducs et la Sorbonne, qui est construite beaucoup plus tard, mais qui reste importante dans l'évolution du quartier et de la ville. Ce sont des monuments importants et fondamentaux dans l'organisation de l'UTES, qui est le nom de Paris à cette époque-là, et aussi dans la vie des citoyens. Reliant tous ces monuments, il y avait le Cardo, la principale voie de circulation dans l'UTES. Il traversait la ville du nord au sud et est devenu l'actuelle rue Saint-Jacques. Je vais relier les parties de cette émission comme le Cardo relie les monuments. Ce n'est pas un monument à proprement parler, mais c'est tout aussi important. Surtout que les Romains avaient fait de l'UTES une ville à leur manière, organisée géométriquement. Les rues se croisent à angle droit, par exemple, comme à New York aujourd'hui. Ils affirmaient donc leur présence et peut-être aussi leur influence, leur culture, leur puissance grâce au Cardo. Il a été tracé en s'inspirant d'un chemin gaulois qui passait à cet endroit. Et c'est ici que le peuple parisien, qui a donné son nom actuel à la ville, se serait installé vers moins de 150, même si certaines preuves archéologiques montrent le contraire. Le projet de documentaire nous permet de superposer ce qu'il reste du plan romain dans l'actuel à travers l'évolution du Cardo au fil des siècles. Pour vous aider à vous repérer et vous présenter notre travail, je vais emmener vos oreilles faire une petite balade dans le quartier latin de l'époque. Nous nous trouvons au niveau du Cardo Maximus. C'est la rue principale de la ville, elle nous mènera jusqu'à l'île de la Cité que l'on voit au loin. Elle est pleine de boutiques où l'on vend divers produits. On peut entendre les vendeurs discuter avec leurs clients, des jeunes gens qui se baladent, des enfants qui jouent, et aussi des charrettes qui passent sur les pavés, des animaux qui se promènent au milieu des boutiques, espérant trouver un peu de nourriture tombée par terre. C'était un lieu très animé. Les gens passaient ici pour se rendre dans les lieux les plus importants de la ville. C'est également à côté du Cardo que passe l'aqueduc de la ville. On ne le voit pas, la plupart de la structure étant sous terre. Mais il est d'une importance capitale. Il alimente la ville en eau et aussi les trois thermes de la ville. Les Romains y allaient très souvent. L'hygiène était très importante à cette époque-là, contrairement à la Renaissance par exemple, et pas au Moyen-Âge comme on pourrait le penser. Fiona va nous parler des aqueducs plus tard dans l'émission. Coucou Fiona!
Bien fort!
Nous voilà maintenant au niveau du forum. On peut le voir à notre gauche. Il se trouvait entre le Cardo et ce qui correspond au boulevard Saint-Michel, et le jardin du Luxembourg se trouvera à côté. Le forum est un ensemble de bâtiments qui constituait le cœur politique et économique de la cité. C'est ici que les citoyens décidaient de l'avenir de la ville. Tiens, si on s'approche un peu, on peut les entendre parler des combats de gladiateurs prévus demain. C'est Lou qui nous parlera du forum. Salut Lou ! Nous sommes maintenant arrivés au terme de Cluny. C'est un lieu de rencontre sociale. Les gens sont mélangés, sans distinction de richesse. Un citoyen modeste peut donc discuter avec un homme très riche sans problème. Cela permet aux plébéiens, les pauvres, de trouver un riche patron qui les protégera en échange de leur voix aux prochaines élections. Les femmes, elles, se baignent à un endroit ou à des horaires différents. Léa va nous parler des termes plus en détail, accompagnée d'Isabelle Bardiès-Fonti, conservatrice du patrimoine au musée de Cluny, où nous nous trouvons en ce moment même. Salut Léa et Lily Rose. Nous faisons maintenant face à l'île de la Cité. Devant nous, des marchands débarquent leur cargaison de leur bateau, quand d'autres s'apprêtent à repartir. Vous vouliez voir les arènes ? Dommage, elles sont plus à l'écart. En tout cas, j'ai entendu que demain, il y aurait des combats spectaculaires. Les gladiateurs doivent s'entraîner très dur en ce moment même. On peut imaginer le son de leurs armes qui s'entrechoquent et leurs cris. Michel va nous présenter les arènes de Lutèce et nous raconter leur redécouverte. Ave Michel ! Le quartier a continué à évoluer autour du Cardo, qui s'appelle maintenant la rue Saint-Jacques, et de nouveaux bâtiments ont continué à apparaître. C'est le cas de la Sorbonne. Nous en parlons dans notre documentaire parce que le quartier latin est aussi un lieu d'étude et que certains d'entre nous y étudieront. C'est Noah qui va parler de la Sorbonne. Coucou Noah ! Pour terminer notre excursion auditive dans le quartier latin, je vous propose d'écouter ce que l'ambiance sonore est devenue après 2 millénaires d'évolution.
Point culture.
C'est le point culture sur Radio Campus Paris.
Comment on décline le mot forum déjà ?
Ah oui, nominatif forum, vocatif forum, accusatif forum, génitif forum.
Tu t'es gouré ! La déclinaison fait forie au génitif.
Ah oui, désolé, j'avais oublié. Je reprends génitif forie, datif foro, ablatif foro.
D'ailleurs, c'est Lou qui bosse sur le forum, non ?
Bonjour, avant de vous présenter notre sujet, je vais vous faire rencontrer un membre de mon groupe. Donc, il y a Angèle qui sera à la caméra, moi à la radio et Emma qui supervise. Emma, on peut se le dire, c'est celle qui a 2 pieds gauche. Angèle, c'est celle à qui on laisse tout le sale boulot. Et moi, c'est la fausse blonde, mais vraie à l'intérieur.
Notre sujet est donc le Forum romain de Lutèce, comme vous avez peut-être pu le deviner grâce à ses sons très représentatifs du Forum.
Le Forum romain était une place publique où se réunissaient les citoyens romains de toute classe sociale pour traiter d'affaires commerciales, judiciaires, politiques, économiques ou encore religieuses. C'est un symbole de la vie civique romaine.
Il était composé d'une place ouverte à l'est. Du côté nord, sud et du côté du boulevard Saint-Michel se trouvait une galerie trottoir qui abritait des boutiques. À l'ouest se trouvait une basilique qui se présentait sous la forme d'un édifice rectangulaire doté d'une nef centrale. Le temple, lieu de culte, se trouvait à l'ouest.
Est-ce que vous savez ce qui reste aujourd'hui du forum ?
Justement, nous y sommes allés pour enquêter.
Excusez-moi, on peut vous poser quelques questions ?
Micro-trottoir.
Vous auriez quelques minutes à nous consacrer ou pas ? En fait, on fait un reportage sur le quartier latin et sur le forum.
Forum DL ?
Non, forum d'ici, dans le quartier latin, il y en avait un. Ben, on le voit pas, il n'existe plus. Le forum romain.
Ah ! Romain !
Savez-vous ce que c'est un forum dans l'Antiquité ?
Le forum ? Non, aucune idée.
Un forum, c'est une... Autrefois du temps des Romains, on jouait des pièces, des choses comme ça.
Forum dans l'Antiquité ? Oui, c'était un petit peu comme une arène où on voyait différents spectacles et où il y avait un espace de parole.
C'était un lieu où tout le monde se rencontrait, où il y avait différentes activités, quoi.
J'ai une vague idée de ce que ça peut être, oui. Après, vous le dire précisément, je pense que je me planterai. Je pense à mettre en place une certaine démocratie, peut-être.
Forum romain, à l'époque, ouais, c'était une place où tout le monde se réunissait, tout le peuple se réunissait pour parler, je sais pas.
Bonjour madame, je cherche le forum romain.
Aucune idée. Aucune idée. Non, mais je crois que ça n'existe pas, en fait.
Merci. Pas étonnant que les gens ne savent pas où se trouve le forum, puisque le forum a été démoli exactement à la fin du 3e siècle lors des invasions.
Est-ce que vous saviez qu'il y avait un forum dans le quartier latin ou pas, avant, à l'époque?
Non, pas du tout. En tout, je suis pas parisien de base, donc...
Oui, puisqu'il y a les arènes qui sont pas très loin et les thermes de Cluny, et je pense que dans le forum, il y avait des thermes aussi.
Ah non, moi je connais pas le forum, je connais que les arènes.
Est-ce que vous saviez qu'il y avait un bout du mur de forum dans le parking, en dessous?
Non, absolument pas, non.
J'habitais dans cette rue-là et il y a 50 ans, alors...
Je savais que tu savais pas.
Non, je savais pas.
Alors, dis non.
Alors, je sais que tout près, on a fait des fouilles il y a quelques années. Mais alors, je savais pas que dans le parking même, il me semblait que c'était rue Gay-Lussac, plutôt.
Non, ça, je ne savais pas.
Non, je savais pas.
Si, j'ai vu le livre de Laurent Deutsch. Ah, voilà.
Dans le parking juste ici, en fait, il y a un mur de forum. Et est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de l'avoir mis là?
Pourquoi pas, au contraire, ça peut être plus sympa. Là, parking, c'est désagréable.
Non exposé au parking, peut-être pas, mais en même temps, on ne peut pas forcément le voir. Par contre, de mettre une petite indication, ça inciterait les gens effectivement à le voir.
Ça aurait été mieux que le parking soit pas là, ouais. C'est tout. Ça, faut pas que ça bouge vu que c'est son endroit d'origine, mais que le parking soit ailleurs, ça aurait été pas mal. Ouais. Que ça soit genre placé en truc historique ou monument. Voilà. Patrimoine, quoi.
D'après les réponses que vous avez obtenues, qu'est-ce que vous pensez que les gens du coup connaissent ou pensent connaître du forum?
Bah, je vous vois déjà bien rire de cette femme qui confond le forum latin au forum des Halles. Mais en même temps, c'est vrai que notre forum des Halles ressemble à celui des Romains et contrairement aux arènes, il n'en reste presque rien.
Et quelle solution pourriez-vous envisager pour que le forum soit un peu plus visible?
Moi, je suis totalement d'accord avec cette dame qui se plaint du fait qu'il n'y a pas de petits panneaux pour avertir qu'il y a quand même un bout du mur du forum dans ce parking qui est en plus pas très accessible. Ça serait quand même bien.
Alors, on mangeait, on faisait du shopping dans ce forum, on se promenait. Mais accessoirement, dans le quartier latin, on prenait son bain aussi parfois.
À poil dur pour laver mes oreilles, la pierre pousse pour mes pieds et mes jolis orteils, la lotion pour ma barbe et pour mes belles moustaches, mon sirop de pistache. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain, on fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain, on chante sous la mousse pour les voisins. Frotte-moi bien le dos. Passe-moi le gant de crin et les algues marines, les ciseaux pour couper les poils de mes narines. Mais voilà le savon qui me glisse dans les mains. Où est-il donc la chien? Oh, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On chante sous la mousse. marche-moi la serviette. Mon pignoir japonais, oh, pilonné, trompette. Pourquoi j'en sortirais? Ah, on est bien quand on est dans son bar. On fait des courses de bulles, on joue au sous-marin.
Léa.
Et moi, Lily Rose.
Il y a aussi Anne qui n'a pas pu venir. Nous faisons toutes les trois partie du projet et nous travaillons plus précisément sur les thermes de Cluny.
Donc les thermes, qu'est-ce que c'est ?
C'était un lieu très prisé par les Romains. On pouvait s'y baigner, lire ou y faire du sport.
Toutes sortes de loisirs susceptibles de nous détendre en fait. Il ne faut pas oublier que c'était le lieu de rencontres nombreuses à l'image du forum.
Les thermes étaient en général composés de trois grandes salles. La salle chaude, appelée Caldarium, la salle tiède, Tepidarium, ainsi que la salle froide, Frigidarium.
Cependant, les thermes de Cluny dérogeaient à cette généralité en ne possédant peut-être pas le Tepidarium. Les visites dans le terme étaient encadrées par un circuit bien précis.
En tant que client, vous entriez par l'accès de rue des écoles. Vous pouviez vous changer dans la podidarium, les vestiaires. Vous pouviez, si vous le souhaitez, faire quelques exercices physiques dans les palestres, sorte de stade.
Vous rangez alors dans le caldarium, salle chaude, où se trouvait un bain chaud ainsi qu'un sauna. La chaleur y a été amenée par un système de chauffage nommé l'hypocauste. C'était en simplifiant de grands foyers situés au sous-sol qui produisaient la chaleur qui était conduite dans des salles grâce à des tuyaux de briques.
On peut noter que la chaleur était telle que les clients devaient porter des sortes de sandales en bois pour ne pas se brûler.
Après cet arrêt chaud, vous vous rangez dans la salle froide.
Cette salle, nommée Frigidarium, est la seule encore présente dans les thermes de Cluny. Vous pouvez encore admirer sa voûte de 14 mètres de hauteur qui l'ont rendue célèbre. Vous pouviez, à l'époque, profiter d'un bain froid tout en regardant les magnifiques décorations et mosaïques dont cette salle était ornée.
C'est en partie pour l'architecture de cette pièce que nous avons choisi ce sujet.
Nous avons aussi apprécié découvrir les soins que se procuraient les gallo-romaines et gallo-romains.
Lors de nos recherches, nous avons trouvé quelques anecdotes que nous évoquerons plus tard.
Justement, vous avez été dans ce fameux Frigidarium et vous avez rencontré la conservatrice en charge des thèmes et des collections antiques, Isabelle Bardias-Fronti. Donc on écoute votre rencontre.
Bonjour Madame Bardias-Fronti.
Bonjour.
Vous êtes conservatrice au musée de Cluny. Comment a-t-il évolué dans le temps ?
Vous êtes dans une institution qui a une histoire très très longue et qu'on connaît plus ou moins bien suivant les périodes. On la connaît finalement plutôt bien pour le début, au tout début, à l'endroit où nous sommes précisément là, pendant cette interview. Nous sommes dans des bains romains, des thermes, il y en avait trois à l'époque romaine, de Lutèce, et plus précisément dans la salle où on prenait le froid, le Frigidarium. Donc il fait partie d'un ensemble de bains romains dans la Gaule romaine qui ont été construits autour du IIe siècle, au moment où la Gaule romaine se développe. Quand on a un beau lieu comme ça, on l'entretient. Pour bien préserver un monument, il faut l'occuper et l'utiliser. Ce musée vous permet de déambuler de cette partie antique à une partie médiévale qui appartenait à un grand monastère de Bourgogne, à Cluny. Et les abbés de Cluny s'étaient fait faire une résidence parisienne à proximité de l'université de la Sorbonne. Quand ils venaient à Paris, comme ça, ils avaient leur maison plutôt que d'aller habiter chez les autres. Quand vous regardez le bâtiment, vous allez lui trouver un petit côté aussi un peu renaissance. Il y a une galerie qui donne sur la cour. Ensuite, les abbés de Cluny, à la Révolution française, on les a chassés, comme la plupart des propriétés des ordres religieux, mais également des familles aristocratiques, comme vous le savez. Là, on suit très très bien l'histoire, année par année. Donc, dans un premier temps, l'hôtel de Cluny sont devenus des appartements. Il y a un monsieur qui possédait l'hôtel de Cluny. Et figurez-vous qu'un collectionneur d'œuvres d'art a décidé de louer l'appartement au premier étage, en se disant « c'est un endroit merveilleux, comme j'ai beaucoup de collections du Moyen-Âge, ça va me faire un cadre pour ma collection ». Lorsqu'il est mort, son fils a dit « Eh bien, moi, je vais faire une proposition à l'État français très honnête. Je vais leur dire « Je vous donne la collection de papa si vous rachetez l'hôtel de Cluny au monsieur qui faisait les locations de ses appartements et j'en serai le premier conservateur bénévole. » Et ce monsieur Edmond du Sommerard, fils d'Alexandre du Sommerard, a réussi à convaincre l'État français qui à ce moment-là a ouvert le musée que vous connaissez, musée de Cluny, en hommage à l'hôtel de Cluny, qui intégrait dans son parcours cette salle où vous êtes pour présenter des œuvres.
Nous revenons d'un voyage en Grèce. Ah. Est-ce que vous aussi, vous avez fait de nombreux voyages pour voir des vestiges antiques, par exemple ?
Alors, les voyages forment la jeunesse. Je pense que vous en êtes d'accord. Vous avez beaucoup de chance d'être allé en Grèce si jeune. Oui, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance de pouvoir voyager beaucoup dans mon enfance. J'ai fait des voyages et je suis allée en Grèce à peu près à l'âge que vous avez. Je pense que j'étais en troisième. C'était ma première visite et ça m'a tellement marquée, mais aussi les philosophes en terminale, que ça a déterminé mon choix de spécialisation après.
C'est ça qui vous a entre autres motivé à faire ce métier ?
Absolument, c'est pour ça que le voyage dont vous rentrez, je ne sais pas comment vous l'avez perçu, ça peut avoir une importance, pas forcément tout de suite, hein. C'est pas quand je suis rentrée, je me suis pas dit « Oh, tu vas travailler sur la sculpture grecque un jour ?» Il y a des révélations comme ça. Moi, ça a dû travailler de manière plus lente, mais il en est resté quelque chose.
Quelles études avez-vous faites pour accéder à ce poste ?
Alors, un conservateur du patrimoine, très souvent, ce n'est pas toujours le cas, hein. Il fait des études en histoire ou archéologie, histoire de l'art. Donc moi, j'ai fait assez traditionnellement une formation d'une part à l'école du Louvre en histoire de l'art et d'autre part dans une université à la Sorbonne, en face du musée de Cluny, en histoire. J'ai mêlé les deux disciplines. Mais bon, chacun fait... C'est vraiment les filières naturelles pour ensuite passer un concours qui est celui de conservateur.
Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce métier
Comme beaucoup d'étudiants, en terminale, au moment du bac, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Mais j'étais bien certaine qu'on m'avait dit que j'étais assez forte en histoire. Et puis j'aimais vraiment les œuvres d'art. Donc j'ai dit, plutôt qu'histoire tout court, je vais faire de l'histoire de l'art aussi. Et puis petit à petit, en avançant, ce concours de conservateur dont je pensais qu'il n'était pas pour moi parce qu'il était très difficile déjà à l'époque, il l'est toujours aujourd'hui, les gens m'ont dit dans mes professeurs, vous devriez quand même vous dire que vous pouvez y prétendre. Et puis je l'ai préparé et c'est donc petit à petit que je me suis rendu compte. Et aujourd'hui, j'aime tellement mon métier que je me demande pourquoi je ne peux pas dire toute petite, je savais déjà que je voulais faire ce que je fais. À la vérité, honnêtement, non. Ça s'est fait progressivement, comme je pense la majorité d'entre nous. Mais il y a des gens qui ont de vraies vocations à votre âge, hein. Je ne sais pas si c'est votre cas, l'une d'entre vous. Moi, ce n'était pas mon cas du tout. Je ne savais pas ce que j'allais faire.
Vous avez fait du grec et du latin ?
Du latin au lycée et du grec un peu après, pour une raison toute simple, c'est qu'il n'y avait pas de grec dans le lycée où j'ai passé mon baccalauréat. Et j'ai commencé à en faire tout de suite après le baccalauréat, parce que j'aimais beaucoup la civilisation grecque, qui est devenue ma spécialité quand j'étais étudiante.
C'est utile et ça a un impact même aujourd'hui ?
C'est ça que je voulais dire par le fait que souvent, c'est bien de démarrer de bonne heure.
Quand vous avez fait du latin, vous avez dû faire des traductions ? Est-ce que vous aimiez en faire ou est-ce que c'était plutôt une corvée ?
C'était plutôt une corvée, sinon... C'est ça, je le dis franchement. Alors pour le coup, moi j'ai toujours trouvé que le grec c'était que de l'amusement et que le latin c'était un peu... J'étais moins à l'aise. C'est là que le rôle de professeur est d'une importance extrême. Un grand prof, ça peut tout changer dans la vie d'un étudiant.
Que pensez-vous de la disparition des langues anciennes au collège ?
Je suis contente d'avoir cette question parce que c'est une chose dont j'ai beaucoup parlé avec un ami qui est professeur de lettres anciennes et qui a apporté beaucoup d'eau à mon moulin dans la mesure où il a exercé pendant des années dans un lycée précisément qui était un petit peu un lycée où n'allaient pas certaines personnes qui voulaient absolument aller dans des lycées plus privilégiés. Et lui de dire que c'est une catastrophe en termes de mixité sociale dans un lycée parce que l'un des points vraiment très importants qui était la chambre d'enregistrement pour lui d'enfants qui voulaient apprendre les langues anciennes, c'est un peu comme si on leur disait que bon finalement comme ils ne sont pas dans un lycée déjà privilégié, eh ben, il n'y a même plus ça. Et lui, il est toujours en contact aujourd'hui, alors qu'il enseigne dans le collège, avec des gens qui ont trouvé leur métier et qui lui disent encore, même s'ils n'en ont plus jamais besoin, pour nous, l'année de latin, ça a été une année vraiment déterminante et décisive. Donc je suis très contrariée par cette disparition. Je considère que c'est le contraire de ce qu'on annonce que ça devrait être. C'est-à-dire qu'on dit que c'est au nom d'une plus grande égalité des chances. Moi, je pense que c'est tout le contraire et que c'était une proposition qui était à prendre ou à laisser. Donc je suis vraiment très triste de cette évolution. Et autant j'aime la pluridisciplinarité, parce que par exemple, quand on fait une exposition, aujourd'hui on l'a fait avec plein de gens qui travaillent dans plein de domaines. On n'est pas uniquement des gens qui font de l'histoire de l'art de la même manière. Le projet pluridisciplinaire, c'est sympathique, c'est parce que c'est ce qui va un peu remplacer un petit peu de ci, un petit peu de ça sur une civilisation. Mais au bout du bout, si on ne fait pas les choses un peu sérieusement à un moment donné, et plutôt à l'âge que vous avez, pardon, ça fait un peu rabat-joie, hein. Eh bien, c'est très difficile d'avoir la maîtrise des choses plus tard. Donc, je pense que c'est pas une bonne idée, puis en tant que citoyenne. Hein, après,
merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup d'être
venue. Alors, quels sont les éléments qui vous ont particulièrement intéressé lors de cet entretien ?
Tout d'abord, je tiens à dire que j'ai trouvé très intéressant le fait de rencontrer une personne qui connaît si bien l'histoire de ce monument. Cela nous a aidés pour notre projet et cela nous a imprégné un peu plus de ce lieu exceptionnel. Madame Bardias-Fonti nous a directement mise à l'aise avec sa gentillesse. Ses réponses étaient très complètes et intéressantes et j'en profite pour la remercier au nom de tout le groupe pour avoir pris de son temps pour écouter et répondre aux questions de petites collégiennes que nous sommes. Merci encore. Pour répondre à votre question, j'ai bien aimé l'entendre prendre position très fortement contre la disparition des langues anciennes. Sinon, nous avons aussi parlé de la place de la femme dans son milieu et nous avons tout trouvé cela intéressant. Savoir que c'est en partie un voyage en Grèce fait à peu près à notre âge qui l'a motivé à faire ce métier nous a montré que ces ouvertures d'esprit, ces voyages culturels peuvent révéler de véritables vocations.
Point culture.
Point culture. Sur Radio Campus Paris.
Le saviez-vous, Vespasien, au 1er siècle après Jésus-Christ, avait instauré une taxe sur l'urine. J'entends déjà toutes les mariées glandines du monde me dire « Ah, mais c'est immonde, il n'avait pas autre chose à faire ?» Attends, je vais t'expliquer. L'urine contient de l'ammoniac, qui est un détergent qu'on utilisait pour laver les vêtements. Les fouleries étaient spécialisées dans le lavage de vêtements et utilisaient donc de l'urine. De quoi être sapé comme jamais ? Ce procédé nécessitait donc une grande quantité d'urine qui était un produit qui se vendait beaucoup. L'empereur avait donc un paquet d'argent à se faire. Ah ben, je comprends mieux pourquoi ils allaient au terme aussi souvent. Rassure-toi, ils trouvaient un moyen d'enlever l'odeur. D'ailleurs, c'est de Vespasien que vient l'expression « l'argent n'a pas d'odeur ». Son fils lui aurait dit « Papa, c'est pas un peu dégueu de se faire de l'argent sur de la pisse ?» Ce à quoi notre cher empereur répondit « Mais cher fils, l'argent n'a pas d'odeur !» Ce qui aujourd'hui veut dire « peu importe d'où vient l'argent ». N'est-ce pas là une histoire magnifique ? C'est l'histoire du pipi.
On continue la balade parce que bon, c'est pas tout ça, mais pour alimenter ces termes gigantesques, il fallait une organisation derrière, des techniques particulières et notamment le tout à l'égout.
Fiona, si j'ai bien compris, c'est toi et ton équipe qui vous y collez. Alors on vous laisse vous présenter.
Oui, donc moi c'est Fiona. Avec Yona et Océane, on s'occupe des aqueducs. Moi je m'occupe du projet radio, Yona est à la caméra et Océane est toujours présente pour nous aider. Bien sûr, on a toutes 15 ans, on est en 3e. Et on est latiniste, ce qui implique que l'on a 3 heures de cours supplémentaires par rapport aux autres classes.
Ce projet, du coup, il vous a apporté quoi ?
Eh bien, pour Yona, qui a quelques difficultés en latin, ce projet lui a permis d'apprécier le latin et de ne pas s'ennuyer en cours. Océane, elle, trouve le projet intéressant parce que ça lui permet de voir le latin d'une autre façon qu'à travers les traductions. Pour moi, ce projet a rendu le latin plus vivant et il m'a aussi permis de me rendre compte de l'influence des Romains dans notre histoire.
Alors, un aqueduc, c'est quoi exactement ?
Un aqueduc, c'est un canal qui peut être souterrain ou aérien, qui est destiné à capter et à conduire l'eau d'un lieu à un autre. Il est destiné à l'adduction d'eau pour la consommation d'une ville. Ce mot aqueduc vient du latin aqueductus, aqua voulant dire eau et ductus, conduire.
Et on la conduisait où, justement, cette eau ?
Dans un premier temps, les habitants de Lutèce ont été satisfaits par les sources en eau dont ils disposaient, c'est-à-dire la Seine et la Bièvre. Mais face aux besoins considérables en eau avec l'agrandissement de la ville, les Romains durent bâtir un aqueduc. Celui-ci permit d'alimenter en eau le palais des empereurs et les établissements publics. Les habitants de Lutèce accédaient à l'eau par le biais de citernes de distribution.
Mais attends, c'est qui la personne qui porte une toge là-bas ?
Bonjour jeune fille, savez-vous que cet aqueduc est de mon œuvre ?
C'est pas possible. Il a été construit dans la deuxième partie du 2e siècle, après Jésus-Christ. Puis il a disparu à cause de manque d'entretien. Un nouvel aqueduc a ensuite été construit sur l'ordre de Marie Médicis, en 1612. Cet aqueduc est d'ailleurs toujours en fonctionnement. Il est géré par les eaux de Paris.
Mais de quoi parlez-vous ? Qu'est devenu l'aqueduc de Lutèce qui alimentait le palais, les thermes et toutes les fontaines pour les habitants de Lutèce ?
Bah, il a été détruit, car personne ne l'entretenait. Je vous l'ai dit, si vous y tenez tant, vous n'avez qu'à aller au parc de Montsouris. Il y a des vestiges là-bas. Elles sont visibles aux yeux de tous.
Mais non, l'aqueduc est souterrain. Pourquoi il serait dans un parc ?
Ah bon ? Moi, je croyais que les aqueducs romains étaient perchés sur des grandes arches.
Mais non, seulement 20% des aqueducs sont aériens à l'époque. Les sources étaient canalisées et aboutissaient dans un réservoir rectangulaire à Vissou. La canalisation correspondait à une rigole bétonnée à plan droit deux verticaux et un horizontal, enterrés à faible profondeur et parfaitement étanches. L'ouvrage était hermétiquement fermé et scellé, mais pouvait être amovible pour l'entretien de la canalisation.
Donc en fait, les égouts s'inspirent des aqueducs. Seulement maintenant, il n'y a plus besoin d'aller jusqu'aux fontaines. Il y a les robinets.
Des robinets ?
Bah oui. Maintenant, tout le monde peut avoir de l'eau sans se déplacer grâce aux robinets. Avant d'arriver chez nous, l'eau est stockée dans 5 réservoirs principaux, dont un à Montsouris, d'ailleurs. Aujourd'hui, les eaux de Paris gèrent ce réseau depuis leur tour de contrôle.
Mais qu'est-ce que c'est que cette carbistouille ? Je vais aller vérifier tout ça.
Bah, pourquoi il s'en va comme ça ?
Bah oui, c'est bête qu'il s'en aille. Nous, on aurait bien aimé lui demander au monsieur Antoge quels étaient les matériaux utilisés pour la construction de ces aqueducs.
Pas besoin de lui. Nous, on sait. À l'époque, on utilisait du béton pour construire ces aqueducs. C'est un matériau qu'on utilise encore beaucoup de nos jours. Le plomb était également utilisé par les Romains dans les canalisations, ce qui a entraîné un taux de plomb 100 fois supérieur aux eaux de source locales dans la Rome antique. Aujourd'hui, les progrès scientifiques nous ont permis de comprendre que l'usage du plomb représente un risque majeur pour la santé publique, ce dont n'avaient absolument pas conscience les Romains à l'époque.
Nous sommes donc en direct toujours depuis les studios de Latin Corner TV. Notre envoyé spécial Michel est sur le point de voir démarrer les combats de gladiateurs.
Ces combats sont très attendus, Enora.
Ça c'est sûr.
On attend très impatiemment l'arrivée de Tatus Tillus, qui, après une fabuleuse saison, pourrait aujourd'hui encore remporter une belle victoire contre Minus Tullus. Pas très en forme, lui, par contre.
Et oui, c'est pour ça que le public est en train de s'agiter. Le public, donc, qui s'impatiente sur les gradins des arènes de Lutèce. Allons prendre donc la température sur place. Allons à la rencontre de Michel. Michel, vous m'entendez? Nous sommes donc en duplex. Où en êtes-vous?
Bonjour Enora, Elia. Me voici sur les arènes de Lutèce accompagné de Yuni, une citoyenne romaine. Nous allons assister à un combat de gladiateurs. Alors Yuni, comment pénétrons-nous dans les arènes de Lutèce?
Malheureusement, je ne sais pas. Peux-tu m'éclairer?
Commençons par le commencement. L'entrée se situe dans le vomitorium que nous traversons.
Où sont nos places?
Sur la Kawea, l'ensemble des rangées de gradins. Es-tu bien installé?
Oui, mais ce n'est pas très confortable. Et je ne vois pas très bien. Pouvons-nous nous rapprocher, là-bas, à côté des gens distingués?
Non, surtout pas. Si tu regardes bien, des noms sont inscrits gravés sur la pierre, appartenant à des personnes d'un rang social plus élevé, sans doute des patriciens.
Oui, je les vois.
Le combat va commencer. Regarde, les gladiateurs entrent. Il se préparait dans les galeries souterraines. Oh, mais c'est Tatus Tillus, le plus grand des gladiateurs. Il y a un rituel particulier avant l'entrée des gladiateurs. Il prie devant un minuscule autel dans les galeries souterraines.
Mais qui prie-t-il?
Tout dépend de leur croyance, mais peut-être Athéna.
Athéna Niké? J'adore les mythes grecs.
Mais sonne ton langage.
Oh, Athéna Niké, Niké, victoire en grec. Contre qui va se battre Tatus Tillus?
Ça dépend du programme d'aujourd'hui. Soit il combat des animaux importés d'Afrique pour la plupart du temps, ou soit contre d'autres gladiateurs.
Je préfère les gladiateurs. Et toi?
Moi, contre des animaux. C'est moins violent. Oh, je vois que c'est ton jour de chance. D'autres gladiateurs entrent en scène.
Le combat va commencer. Allez, Tatus!
Point culture.
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 Point culture.
Point culture.
Oh, il a perdu son glaive.
Point culture. Salutations, chers amis. Vous venez bien de dire glaive. Permettez-moi de me présenter. Professeur Alexandra Arène. Vous pouvez aussi m'appeler Arène. Attrait d'union REN.
Mais d'où vous sortez avec votre point culture?
Je viens vous parler d'étymologie. Ce mot que vous avez prononcé tout à l'heure, jeune homme, glaive, il vient du mot latin gladium, qui a aussi donné gladiateur. C'est intéressant de savoir d'où les mots viennent. Beaucoup de mots français sont d'origine latine. Il y en a même plus que vous ne le pensez. Essayez de chercher les racines du premier mot qui vous vient à l'esprit, n'importe lequel. Vous allez être surpris. Tiens, amusez-vous à chercher les origines du mot con pour voir. Quoi qu'il en soit, gladium est lié à glaive et gladiateur. Vous entendriez beaucoup ce mot aux arènes romaines. D'ailleurs, vous y êtes en ce moment même, n'est-ce pas?
Merci beaucoup, c'était très intéressant. Oh, regarde, Tatus a vaincu tous ses adversaires. Tous les spectateurs l'acclament.
C'est pourquoi les jeux des arènes étaient si populaires. C'est la fin de cette rencontre. Merci Yuni, à vous l'antenne.
Le saviez-vous?
Oh, arrête avec tes saviez-vous, t'es trop relou.
Ah, oh, ça va, j'arrête. Michel, sauve-moi!
Le saviez-vous, en 1867, la compagnie des omnibus avait entrepris l'aménagement d'un dépôt. Et lors des travaux, la quasi-totalité des arènes réapparut à la surface. Une bataille s'engagea alors pour la conservation des vestiges par la ville de Paris. L'intervention de Victor Hugo en 1883 fut décisive. Victor Hugo adressa une lettre au conseil municipal de Paris pour défendre les arènes de Lutèce.
Monsieur le Président, il n'est pas possible que Paris, la ville de l'avenir, renonce à la preuve vivante qu'elle a été la ville du passé. Le passé amène l'avenir. Les arènes sont l'antique marque de la grande ville. Elles sont un mouvement unique. Le conseil municipal qui les détruirait se détruirait en quelque sorte lui-même. Conservez les arènes de Lutèce. Conservez-les à tout prix. Vous ferez une action utile et, ce que vaut mieux, vous donnerez un grand exemple. Je vous serre les mains. Paris, le 26 juillet 1883, Victor Hugo.
Les gladiateurs, que des sauvages qui se battaient pour de l'argent. Nous, au moins, à la Sorbonne, on était des intellectuels.
Pardon? Nous, au moins, on faisait rire le public. On n'était pas décoincés du...
Puisque t'as l'air si fier de ton projet, présente-le-nous. Qui êtes-vous et que représentez-vous?
Nous sommes trois grands beaux hommes virils qui présentons la Sorbonne. Je m'appelle Noah, alias Sergent Radio, et je suis épaulé par le capitaine caméra Quentin et l'amiral organisation Adam. Nous avons longuement travaillé sur la Sorbonne et il m'est récemment arrivé une mésaventure avec Léa Bagro que vous pouvez retrouver sur YouTube et Twitter sous le nom de Léa Psychopanda. Psychopanda et panda attaché. Oui, cette fille est très bizarre. Enfin bref.
Bonjour Monsieur Noah, merci d'être venu me voir. Je voulais te parler de l'exposé en coopération avec l'autre classe. Tu dois sûrement connaître Léa.
Non monsieur, non.
Écoute, personne ne veut faire équipe avec, et personne avec toi non plus d'ailleurs. Ce n'est pas une proposition, mais un ordre.
Attendez, je veux bien que les élèves soient jaloux de ma beauté et de mon intelligence, mais de là à me faire travailler avec la personne la plus sympa du collège.
Je n'ai pas le temps de faire de l'ironie avec toi. Si tu as besoin de conseils, va voir Monsieur Lecuyer, il te dira comment faire avec elle.
Attendez, ce monstre ne peut pas être une fille.
Sors de cette salle.
Bah avoue que ça prête à confusion.
Dehors. Sois patient avec elle. Travaillez ensemble et essayez d'établir un contact sympa.
Vous venez d'utiliser le mot sympa en parlant de Léa, c'est incompatible.
Je parle sérieusement. Si tu fais un effort, peut-être qu'elle réussira à travailler.
Bon, on est installé. Tu es prête?
Malheureusement.
La Sorbonne, bâtiment dans le 5e arrondissement qui...
Le quartier latin? Génial!
Je sens que tu vas m'énerver, toi.
Quel dommage.
Ok, stop. La Sorbonne, donc, créée en 1257...
On n'est pas censé faire un truc sur l'Antiquité? Pourquoi tu me parles du Moyen-Âge?
Nuance, on fait tous des projets sur le quartier latin.
Oh, ça va être du boulot.
Créée en 1257, donc, par le théologien Robert de Sorbonne, dont il définissait le projet en disant, je cite, « Vivre en bonne société, collégialement, moralement et studieusement ».
Robert de Sorbonne, le nom vient de là?
Merci Einstein, le nom vient effectivement de là et il en est le premier proviseur. À cette époque, Paris est le lion international du savoir et on y trouve les meilleurs maîtres et élèves venus de toute l'Europe. La fondation du collège avait un double objectif, être un collège accessible même aux pauvres et en même temps ne pas laisser le contrôle de l'université aux ordres mendiants.
Égalité, laïcité.
Que nenni, puisqu'il organise peu à peu son collège autour de l'abbaye Sainte-Geneviève sous l'impulsion des abbés.
Merci Einstein.
Ne me cherche pas.
Sinon quoi?
Bref, quoi qu'il en soit, cette architecture reste simple, sans fioritures ni décorations, selon la volonté de son fondateur. Elle s'agrandit énormément au fil du temps et s'étend le long de la rue Coupe-Gueule, renommée Sorbonne, du fait de la monopolisation de l'espace par l'école. C'est en 1622 que le cardinal de Richelieu devient le proviseur de ce collège qui gagne en réputation.
Attends, cardinal? J'avais parlé de laïcité. Non!
Il fait agrandir les espaces d'études et fait alors construire une énorme bibliothèque dite Richelieu.
Riche en intelligence?
Non, riche parce que c'est son nom.
Ah.
Il fait aussi fabriquer une chapelle et une grande cour et les travaux seront partiellement terminés à sa mort en 1642. Ah, la mort, c'est pas très joyeux, pas vrai?
Ah bon?
En même temps, notre monde n'est pas toujours joyeux, la preuve avec la magnifique réaction du peuple pendant la Révolution.
Oh, je connais ce ton.
De quoi tu parles?
T'as envie de raconter, c'est
ça? Pas de quoi tu parles.
Allez.
Ok, si t'insistes.
Seigneur, tu es moi.
Alors en fait, en décembre 1794, le souvenir de la politique fiscale de Richelieu est si fort que la population parisienne se rue à la Sorbonne pour se venger de ce symbole que l'absolutisme connu depuis féroce. Le tombeau du cardinal est attaqué, le néant est brisé et son corps sorti de la crypte est démembré. Mais un commerçant de la rue de la Hâpre, nommé Cheval, l'emporte chez lui comme souvenir de l'événement. La terreur finit et craignant probablement des représailles, Cheval offre la relique à un abbé qui l'emmène en Bretagne où elle sera conservée pendant 70 ans. Ce n'est qu'en 1886 que la tête fait son retour à la Sorbonne. Elle est replacée sous une chape de béton pour ne plus être profanée. Tu parles plus?
Non, je t'appelle un psy. Je comprends pas comment tu peux être fasciné par un truc pareil. Allô? Oui, c'est pour un rendez-vous psychiatrique.
Revenons à la Sorbonne. Malgré ces événements, elle était bel et bien interdite aux étudiants et consultants de la bibliothèque durant la Révolution. La chapelle prend le nom de temple de la déesse raison.
Ça, c'est moi.
Tu me fatigues.
Mieux vaut être fatigante que fatiguée.
Tu prends la porte.
Ok, je la mets où?
Et le collège est lui-même transformé en atelier d'artiste sous les ordres de Napoléon et retire ta main de ton t-shirt tout de suite.
T'es pas drôle. D'ailleurs, tu connais la couleur du cheval blanc de Napoléon?
Bah, blanc.
C'est décidé. Je vais demander à Monsieur Lécuyer l'autorisation de te faire passer en CP.
À la Restauration, le duc de Richelieu, premier ministre de Louis XVIII, voulut honorer la mémoire du cardinal.
Et étonnant.
En rendant tout son lustre à la Sorbonne, il y fit construire un amphithéâtre de 1200 places. Malgré ses aménagements, les vieux bâtiments du XVIIe siècle, abandonnés pendant les 10 ans de la Révolution, s'étaient beaucoup dégradés.
Oh.
En 1896, le collège de la Sorbonne devient le siège de la nouvelle université de Paris, lieu privilégié de la connaissance. Le 3 mai 1968...
Pas mal de temps après, donc.
Laisse-moi travailler. Le 3 mai 1968, l'attaque des forces de l'ordre contre plusieurs centaines d'étudiants d'extrême-gauche armés et postés dans la cour de la Sorbonne, qui étaient dans l'attente d'une attaque de l'extrême-droite, met le feu aux poudres dans le cadre des grèves de mai-juin 68.
Il suffisait d'un prétexte pour faire tout péter. Hashtag Première Guerre mondiale, hashtag...
Hashtag gueule, laisse-moi finir. T'as oublié la Sorbonne...
T'as oublié la Sorbonne aujourd'hui.
Ah oui, et bien grâce au décret du 23 décembre 1970, l'université Paris-Sorbonne d'aujourd'hui a connu 8 présidents et est le siège du rectorat de l'Académie de Paris et de la chancellerie des universités de Paris. La chapelle de la Sorbonne fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis février 87 et le grand théâtre, les façades et toitures depuis septembre 75.
C'était passionnant.
Notre balade dans le quartier latin touche à sa fin. Alexandra, un dernier mot ?
En conclusion, le quartier latin concentre de prestigieux lycées et universités. Cet aspect nous concerne vraiment en tant qu'élèves de 3e, car certains d'entre nous vont partir y faire leurs études l'année prochaine, ou en tout cas l'espère. C'est aussi un quartier à côté de chez nous, le lien existe entre nous et lui. On étudie le latin, et c'est de là qu'il tire son nom, cela nous rappelle son histoire, et aussi que le latin est une partie importante de notre culture. Ce projet nous permet en quelque sorte d'éclaircir ce lien et de le faire partager aux autres. Et nous, nous avons pris plaisir à étudier le latin. On trouve que c'est important, n'en déplaise au ministère de l'Éducation nationale. Une réforme qui entre en vigueur l'année prochaine va diviser par 2 les heures de latin et il est possible que dans quelques années, on ne l'enseigne plus. C'est dommage pour ceux que ça intéresse, ça donne une certaine culture et de meilleures notes en français. Et c'est triste que ce ne soit plus réservé qu'aux spécialistes de l'Antiquité. En tout cas, nous, on s'est éclatés en latin cette année.
Merci Alexandra, merci à tous. L'émission donc touche presque à sa fin. On va d'abord profiter d'un petit moment ici au musée de Cluny parce qu'on a un public qui est venu aussi pour vous et qui a peut-être des questions à vous poser suite à tout ce que vous avez dit ou à poser à votre professeur dans le cadre de votre projet. Est-ce que quelqu'un aurait une question ?
Bonjour et puis bravo, hein, c'était très intéressant. Alors j'aurais une question, une première question. Qu'est-ce qui vous a plu le plus dans ce projet ?
Avec le temps, on a manqué des cours pour préparer l'émission de radio, c'est ça le plus important.
C'est gratuite en plus.
Oui, voilà. Et le mieux, c'est de passer du temps entre nous. Et comme c'est notre dernière année ensemble, c'est le meilleur moment pour passer du temps.
Ouais, parce qu'après, on se reverra peut-être plus.
Allez, sortez les violons.
J'aurais une deuxième question. Y a-t-il des lieux qui vous ont particulièrement étonné au cours du projet ?
Personnellement, c'est peut-être les alentours de la Sorbonne, parce qu'en fait, en arrivant, je m'attendais vraiment à une université, mais pas aussi, déjà aussi grande. Et puis, surtout, en fait, on s'est vraiment rendu compte que ça changeait un peu, comme M. Lafont nous disait souvent en classe quand il essayait de nous vendre Lavoisier et Montaigne comme les meilleurs lycées du monde. Il nous disait beaucoup, c'est joli, le quartier latin, c'est beau, les belles rues, les beaux monuments et tout ça. Du coup...
13e quand même, il n'y a rien.
Exactement,
ici.
J'hésitais à le dire, je me suis dit c'est peut-être limite, mais c'est vraiment ça qu'il nous disait. Pas le 13e, toujours la même rue, si.
Les péquenots, hein.
Donc, et vraiment, ça, c'était vraiment beau, en effet. Et c'est peut-être une des choses qui impressionne le plus, en fait, à notre âge, en tout cas.
Moi, c'était plus les termes, parce que j'imaginais pas comme ça. C'était plus grand que je pensais. Et aussi le télémusée Cluny, parce que c'est magnifique et il y a beaucoup de choses. Et je rejoins aussi l'avis de Noah pour Monsieur Lafont et pour la Sorbonne.
Qui est votre professeur, quand même, il faut le dire.
Oui, professeur de français, grec et latin. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup d'heures.
Et accessoirement torsionnaire aussi.
Voilà, merci beaucoup.
Moi, j'ai été un peu surprise par le forum parce que je pensais qu'il restait plus que ça. Enfin, même si j'avais fait des recherches, je pensais que ce serait plus impressionnant, le mur de façade, mais un peu... Mais sinon non. Et ouais, les termes aussi, je trouvais que c'était bien conservé, c'était grand, je suis d'accord.
s'attendait à des plus grosses ruines, mais c'est bien conservé. Il reste plein de choses encore dans le musée, ça va. C'est très grand.
Moi, c'est pareil pour les thermes, c'est super bien conservé. Et le Frigidarium, c'est vraiment haut, 14 mètres, je ne me rendais pas compte de ce que ça faisait. Mais après, pour le reste, j'étais pas là, donc je faisais une interview avec la conservatrice.
Moi, pareil que Léa, j'étais pas présente quand on a fait la visite du forum et du reste. Mais j'étais aussi étonnée par la hauteur du Frigidarium.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans le public ?
Voilà, je voulais savoir si vous avez travaillé toute l'année sur ce projet.
Oui.
Depuis le début de l'année.
Oui, en fait, on nous a proposé au début de l'année de faire, donc c'est vraiment un projet sur toute l'année, la radio plus le documentaire filmé.
C'est marrant, on se rend peut-être pas compte quand on écoute parfois la radio, mais cette petite heure, ce trois quarts d'heure là, c'est 9 mois de travail presque intensif, et c'est vraiment. Après, c'est beau de le voir se concrétiser, mais voilà.
Presque intensif, exagère pas quand même, hein, Noah.
Enfin, personnellement, moi, c'était intensif. Après, vous préparez vos trucs le dernier jour, c'est pas mon truc.
C'est sûr que ça prenait quelques heures à préparer, à écrire les textes, à corriger, à aller prendre les sons. Ça prenait des heures, des jours de travail, mais quand même pas 9 mois intensifs.
Mais aussi, on a commencé les tournages à partir de janvier, je crois. Et on en faisait, par exemple, au début, on faisait un tournage par mois. Et après, ça a accéléré et le tournage final, c'est la semaine prochaine. Non, la semaine d'après. Donc voilà, ça a pris un peu beaucoup de temps, mais on espère que le résultat sera au rendez-vous.
Moi, je reviens juste sur les corrections. Je voulais remercier Monsieur Charon pour les corrections faites avec nous. Même si à chaque fois que vous corrigez notre truc, vous nous faites un roman. Mais merci quand même. Grâce à vous, on a beaucoup avancé. Et Monsieur Lafont aussi.
Deux pages en rouge. Totalement.
Voilà, c'était très intéressant.
Avec Quentin, tout ce qu'on avait retiré, on avait fait 5 pages. Toute la classe s'était moquée de nous parce que ça durait 1 heure. Il a remis les 5 pages. C'est-à-dire qu'il a rajouté ce qu'on avait retiré.
Merci encore.
Si on vous aime.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Donc bravo pour tout ce travail, intensif ou pas, mais c'était vraiment très bien. Je voulais juste savoir si ce que vos recherches vous ont donné envie à certains d'entre vous de vous orienter vers soit l'archéologie, soit un métier de conservateur, donc ou l'histoire des arts. Voilà.
Ben en fait, déjà, il y en avait certains d'entre nous. Je pense par exemple à Adam, qui n'est pas là malheureusement aujourd'hui, qui voulait déjà faire archéologue avant. Donc il y en avait déjà avant qui s'étaient déjà prédestinés à ça. Mais c'est sûr que ça passionne, ça nous force à sortir un peu de nos manettes de PlayStation 4 habituelles et de regarder un peu, d'observer. Ça. C'est, en fait, notre génération, c'est beaucoup de photos, de vidéos, parce qu'on a grandi avec ça. Et travailler sur ça, ça nous force un peu à observer avec nos yeux. Là, je pense qu'il y a un an, vous me mettez là, je prends mon téléphone, je prends des photos, mais je ne regarde pas avec mes yeux et ça peut effectivement avoir changé ça.
Oui, surtout pas nous regarder que nous et aussi regarder en arrière un peu le passé, comment c'était. Parce qu'il y en a dans notre classe, ils croyaient qu'avant leur naissance, c'était la préhistoire. Je ne citerai pas de nom, mais...
Dalaba, elle a demandé si en 1980, les photos, elles étaient en couleur. Chaud.
Après aussi, rencontrer aussi la conservatrice, vous en avez déjà un peu parlé aussi tout à l'heure, mais c'est vrai qu'elle nous a fait le plaisir de nous accorder du temps. Léa.
C'était vraiment bien, je l'ai déjà dit, mais vraiment, en fait, on pensait... généralement, les gens... on a une idée des gens qui travaillent dans ce milieu un peu strict et tout, mais elle était vraiment super gentille, décontractée, et voilà.
Ouais, c'est comme ça qu'on voit qu'ils sont passionnés, qu'ils sont sympas, et ça peut nous aider à nous lancer. Personnellement, je m'intéressais déjà à ça, et notamment j'avais fait mon stage de 3e au Louvre, et du coup je m'intéressais déjà à ça. Mais là, entendre cette interview de la conservatrice, ça m'a vraiment motivée à faire ce genre d'études, en fait.
Pour ma part, ce qui a été plus intéressant, c'est surtout justement la conservatrice des thermes de Cluny, parce qu'elle nous a raconté en fait toute l'histoire de sa vie en quelque sorte jusqu'à maintenant, et elle nous a surtout montré, après je sais pas si tu partages même avec moi, surtout montré qu'elle était très passionnée par son travail.
Donc on remercie effectivement encore une fois la conservatrice Isabelle Bardès-Fonti pour son accueil au musée. Et encore une autre question dans le public.
C'est pas vraiment une question, c'est juste pour rassembler ce qui a été dit. C'est qu'en fait, quand on fait le lien entre le passé et le présent et donc l'avenir, et qu'on le fait, qu'on fait un lien entre les plus anciens et les plus jeunes, et qu'on le fait avec passion justement, ben, je trouve que le rendu sur une année, que ce soit 9 mois ou plus ou moins, je trouve que le rendu est intéressant. Et en tant qu'enseignante, quand on parle de transversalité, non, c'est ce qui s'appelle la travailler le français, l'histoire, le latin, le grec, avec des jeunes qui découvrent autrement qu'avec des yeux un appareil photo ce qu'est la vie d'hier et d'aujourd'hui. Je trouve ça passionnant. Voilà. Et merci à vous tous pour ça.
Merci beaucoup.
Encore une autre question peut-être ? Eh ben, merci beaucoup pour cette très belle émission. Merci d'avoir d'être venu y assister. Merci pour vos questions. Et puis merci à toute la classe de 3e 2 du collège Gustave Flaubert et aussi évidemment à Monsieur Lafont, leur professeur principal.
Je voudrais juste faire un tout petit point, si on peut peut-être poser des questions justement à leur professeur pour qu'ils nous indiquent justement où est-ce qu'on pourra trouver ce projet et à quel moment. Est-ce que peut-être Guillaume Lafont veut nous expliquer un peu son projet ?
Bon, d'abord, je voulais féliciter mes élèves parce que je suis très content de leur prestation. C'était super. Moi, j'étais en tant que public très, très enthousiaste, donc je suis très content. Au-delà de ça, le projet, il est né effectivement au mois de janvier dernier, où on avait cette idée de faire un documentaire sur l'UTES, un documentaire vidéo. Donc c'est pour ça qu'on est accompagné de Célène et de Kevin, qui sont deux chefs opérateurs qui travaillent avec nous en continu sur l'année. Normalement, on a aussi un ingé son, mais là, le son, c'est Radio Campus qui nous le donne, donc c'est super. Au début, c'était un documentaire... peut-être quelque chose d'intime au sein du collège, et puis grâce à ces techniciens et aux professionnels, on arrive à faire peut-être, et à un producteur qui a accepté de travailler avec nous, on a la possibilité de faire effectivement un film documentaire sur l'UTES présenté par des adolescents et des élèves latinistes, je le répète parce que c'est important. Et du coup, on a filmé tous les travaux qu'on a menés pendant l'année en classe, à l'extérieur, avec les intervenants, avec Monsieur Charon, le professeur d'histoire, avec Enora et Léa qui travaillent à Radio Campus. On a rencontré la conservatrice du musée de Cluny. Donc on a filmé finalement toute cette année de travail sur le thème. Et puis on va aller in situ très bientôt, c'est-à-dire que Michel va nous présenter les arènes, Quentin nous présentera la Sorbonne, et ils seront sur place et on filmera les lieux et on essaiera de faire une mise en scène un petit peu à la manière de cette émission de radio qui rend le documentaire intéressant, et on espère que quelqu'un s'y intéressera, que ce soit une chaîne de télé, une chaîne web ou autre. Et il va falloir monter tout ça parce qu'on a déjà plus de 30 heures de rush, donc on a beaucoup de travail encore, enfin du moins j'en ai à faire. Et puis cette émission-là, elle est super parce que c'est dans le cadre d'un travail audiovisuel, on a cette autre partie qui nous intéresse, le travail sur le son, qui je trouve est passionnant. Et moi je pense qu'on retient davantage quand on est dans l'action, et que parfois en tant que prof, moi-même je m'ennuie à professer derrière mon bureau, et je trouve ça parfois plus excitant. Je pense que la mémoire des choses, elle vient aussi quand on voyage, quand on partage, quand on est un groupe, quand on rencontre des gens, et que j'espère que vous aurez cette mémoire là comme vous aurez la mémoire du latin.
Inès, si vous voulez rajouter quelque chose.
Moi, c'était aussi pour rejoindre les remerciements de M. Lafont. Déjà, tout d'abord, merci à Enora et Léa de nous avoir suivis cette année et de nous avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup aidés et nous avoir fait découvrir leur monde de la radio. Aux techniciens, les caméramans, merci. Désolé pour toutes ces heures de filmage qui ne sont pas forcément très intéressantes. Merci beaucoup. Et pour finir, nos profs, deux profs préférés, je pense, de 4 ans, M. Lafont et M. Charon. M. Charon, pour votre humour magnifique. Voilà. Merci. Et pour M. Lafont, il reste M. Lafont, prof très... Voilà. Il n'y a même pas besoin de dire merci, en fait. Merci pour cette année, c'était magnifique pour notre dernière année. Et on est ravis de vous avoir connus. Voilà.
Et pour toutes les autres années où on vous a eu aussi.
En fait, vous avoir 9 heures par semaine, c'est
pas si horrible que ça. Et aussi remercier toute l'équipe de Radio Campus, parce que quand on est allé leur rendre visite, ils étaient très, très gentils, etc.
Toujours très sympa, ouais. De base.
Et Lydia aussi.
Lydia qui n'était pas là aujourd'hui et qu'on pense effectivement à elle. On va conclure du coup, encore une fois, je vous remercie vraiment tous. C'était un super moment qu'on a passé ensemble. On espère que justement ça vous a fait aussi découvrir le monde de la radio et que ça vous a plu et que vous aimerez par la suite redécouvrir un peu plus la radio. Je termine donc sur les actus du musée, hein, puisqu'on est là au musée de Cluny pour les journées nationales de l'archéologie aussi, qui étaient hier, aujourd'hui et demain. Donc vous avez encore le temps de venir au musée, d'aller dans d'autres musées également d'archéologie, comme le musée archéologique de l'Oise, qui a en ce moment une archéologie qui s'appelle Je suis archéologue, une exposition qui mélange archéologie et bande dessinée, donc c'est assez intéressant. Et puis, j'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y a une nouvelle revue d'archéologie qui s'est créée, la revue de l'ACERAP, l'Association culturelle pour l'étude et la recherche en archéologie préhispanique. Je prêche un peu pour ma paroisse, puisque c'est ma spécialité. Encore une fois, merci à tous, merci au public d'avoir été là aujourd'hui. Et à très bientôt sur Radio Campus Paris. Merci.
Was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking.
Now I'm depending on you. Just tell me the truth.
Mama looked up with a tear in her eye and said,
"Hey."